Bonjour Madame, merci Madame la Présidente, bonjour, bon début d'après-midi, enfin c'est l'après-midi donc à Hong Kong, Chine, bonjour aux personnes qui sont présentes dans la salle ainsi qu'à mes collègues. Alors je me fais l'écho de mes collègues pour remercier la délégation de Hong Kong, Chine d'avoir décidé de participer à ce dialogue. Aujourd'hui je vais me pencher sur les points 4 et 5 de la liste. Je commencerai donc par le paragraphe 4 qui aborde également la loi sur la sécurité nationale. Conformément à cette loi, le Bureau de la protection de la sécurité nationale du gouvernement populaire central peut exercer certaines compétences, en tout cas dans certaines circonstances. D'après vos réponses, la loi sur l'application de cette loi ne fait pas l'objet, donc, ne relève pas de la juridiction de la région administrative spéciale de Hong Kong, mais doit quand même être conforme à la législation de Hong Kong. Alors, cette réponse me paraît ambiguë. Est-ce que le bureau et son personnel doivent se tenir, doivent donc faire appliquer la charte des droits hongkongaise ou autre chose? Et de quelle manière? Est-ce que la loi sur l'application que doivent respecter donc les membres de cette instance peut faire l'objet d'examens judiciaires? Si c'est le cas, ça n'est pas tout à fait conforme aux dispositions du pacte. D'après ce que nous savons, en vertu de cette loi, toute personne qui fournit des informations qui devraient être tenues secrètes de façon illicite et qui pourraient nuire au gouvernement central est constituée comme une infraction. Mais là encore, la liste des infractions visées est extrêmement vaste et générale. Donc, quelles mesures avez-vous prises concrètement pour veiller à ce que la loi qui permet donc d'ériger ces activités en infraction n'aille pas à l'encontre du droit à la liberté d'assemblée et d'autres droits visés au pacte? En juin 2020, le paragraphe 43.3 de la loi sur la sécurité nationale a fait l'objet donc de nouvelles mesures d'application. Appliqué par la nouvelle division pour la sécurité nationale à Hong Kong, Chine. Vous nous dites dans vos réponses que les compétences de cette instance sont assez semblables à celles de la police dans de tels cas, mais dans la première section de cette réglementation, eh bien, il semblerait qu'il soit possible donc de confisquer certains biens à des particuliers si l'on estime que leurs activités vont à l'encontre de la loi sur la sécurité nationale.
Has the authority to reason the property?
Il y a également des liens avec la propriété des individus qui font l'objet d'enquêtes pour des crimes présumés sans avoir de mandat. Il y a également une liste 4 qui permet à la police de demander que les contenus en ligne sur les sites locaux soient éliminés, effacés, quand la publication peut représenter une infraction qui met en danger la sécurité nationale. Et encore une fois, pas de mandat nécessaire dans certaines conditions. Veuillez expliquer quelles mesures le gouvernement de Hong Kong a prises et est en train de prendre pour mettre en œuvre ces règles, pour les mettre en pratique de façon compatible avec les obligations de Hong Kong en vertu du pacte. Et veuillez indiquer quels sont les recours en justice disponibles pour les personnes dont les droits garantis en vertu de la Bill of Rights de Hong Kong et du pacte ont été violés par les mesures prises dans le cadre de ces règles de mise en œuvre ou Implementation Rules. Le comité a été saisi d'informations disant que certaines organisations qui se trouvent en dehors de Hong Kong ont reçu une lettre de la part de la police de Hong Kong qui les aurait accusés de violer la loi sur la sécurité nationale et en leur demandant de démanteler leur site internet. Veuillez expliquer sur quel motif, comment vous pouvez appliquer de façon extraterritoriale la loi sur la sécurité nationale concernant le contenu de sites internet qui sont totalement licites en vertu des lois nationales des pays dans lesquels se trouvent ces organisations et à la lumière des normes internationales qui sont donc des organisations licites dans leur pays protégées par le pacte. Paragraphe 5. En vertu de l'ordonnance ou du décret sur la réglementation d'urgence, si le chef exécutif du Conseil considère qu'il s'agit d'une situation d'urgence ou occasion d'urgence ou un danger public, il peut adopter des réglementations, des règles qu'il souhaite à sa discrétion s'il considère que c'est dans l'intérêt du public. Cela signifie que le chief exécutif a le pouvoir d'émettre des règles d'urgence au motif d'un danger public qui est différent de l'état d'urgence qui menace la vie de la nation, comme le prévoit l'article 4 du pacte. En fait, lorsqu'on a imposé l'interdiction du masque en octobre 2019, le chef exécutif a souligné que Hong Kong n'était pas dans un état d'urgence. Veuillez préciser la différence entre ce que vous appelez « public danger », danger public, et état d'urgence dans le décret sur la réglementation d'urgence et veuillez expliquer comment Hong Kong Chine considère que les mesures restrictives prises par le chief executive dans la situation de danger public sont compatibles avec l'article 4 du pacte. Selon l'observation générale numéro 29, les mesures qui dérogent aux dispositions du pacte sont limitées à l'étendue strictement prévue par les exigences de la situation. Cela est lié non seulement à la nécessité de ces mesures dans certaines situations d'urgence, mais aussi au principe de proportionnalité. Hong Kong Chine admet clairement ces principes dans sa réponse. Cependant, il semble que le décret de réglementation d'urgence en soi ne prévoit aucune exigence de ce type à respecter. Veuillez fournir des informations sur les garanties pour éviter toute restriction inutile ou disproportionnée aux droits humains dans les circonstances définies comme danger public ou urgence dans le décret ou ordonnance de réglementation d'urgence. Enfin, veuillez fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance de réglementation d'urgence ou décret ou toute autre base juridique en réaction à la pandémie de COVID-19. Veuillez dire tout particulièrement si le gouvernement de Hong Kong ou le gouvernement central ont déclaré une dérogation à l'article 4 du pacte. Sinon, si ce n'est pas le cas, comment harmoniser les mesures restrictives prises pour comment les concilier avec les obligations de Hong Kong en vertu du pacte? Je vous remercie par avance pour vos réponses. Merci.